bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée à la thématique de l'histoire des Vosges, l'histoire de notre territoire. Et nous sommes pour ces prochaines minutes en compagnie de Jacques Grasser. Bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes agrégé d'histoire et surtout vous êtes notre interlocuteur pour cette série d'émissions où nous avons choisi de parler de fortifications et nous avions à décider de l'époque à partir de laquelle nous allons commencer à parler.
Exactement.
Donc nous allons maintenant voyager dans le temps avec vous et jusqu'à quand remonte-t-on le temps pour débuter cette deuxième série ?
Je crois que l'une des grandes époques visibles aujourd'hui, parce qu'il faut, en s'adressant à nos auditeurs, il faut qu'ils aient quand même des choses à voir dans le paysage et à comprendre, c'est évidemment l'époque médiévale. Et plus précisément, l'époque de ce qu'on appelle le bas Moyen-Âge. Bon, j'aime pas tellement ce principe-là, ce vocabulaire-là, mais la période qui s'étend à partir de l'an 1000, on va dire grosso modo, jusqu'au 15e siècle, jusqu'à la Renaissance. Les deux étapes que l'on pourrait, disons, limiter dans le champ de cette petite étude, c'est d'une part, à partir du 10e, 11e siècle, ce que je viens de dire, c'est-à-dire le fait de pouvoir effectivement utiliser à grande échelle de la pierre pour construire effectivement des bâtiments les plus solides possibles. Et puis, le 15e siècle, c'est la révolution de l'artillerie à poudre. Hein. Alors l'artillerie, on parle d'artillerie à poudre parce que l'artillerie avant existait. L'artillerie, ça consiste à envoyer des projectiles sur la tête de l'adversaire. Mais ces projectiles lourds, jusqu'au 15e siècle, c'est un certain nombre d'instruments qu'on connaît depuis l'Antiquité, c'est-à-dire des catapultes hein, en particulier, qui permettent d'envoyer des blocs en direction de l'adversaire, soit pour casser des fortifications par répétition de l'envoi, soit pour écraser les fantassins qui se présentent. À partir du 15e siècle, pour faire simple, on invente les projectiles propulsés par de la poudre noire. Bon, c'est une découverte qui nous vient de Chine, etc. Qui va remplacer effectivement les moyens élastiques de la catapulte. Donc ça va permettre d'envoyer des projectiles. Alors certes, au début, ça va pas bien loin. Il faut s'approcher des murailles. On a suffisamment de miniatures qui le montrent, où on a des canons qui sont quasiment à touche-touche avec les murs. Hein. Quelquefois, le tube explose, hein, etc. Bon, mais très rapidement, en l'espace, on peut dire d'un siècle, on va faire d'énormes progrès. Et rapidement, à partir de la fin du 15e siècle, au 16e siècle, l'artillerie à poudre remplace tout autre procédé. Et donc là, on va avoir effectivement ce qu'on va appeler, entre le 16e siècle et le 20e siècle, la lutte de l'épée et de la cuirasse. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'artillerie de l'assaillant va être de plus en plus perfectionnée et de plus en plus puissante et tirant de plus en plus loin, donc de moins en moins facile à détruire par un tir de contre-batterie, et bien au fur et à mesure, il va falloir que la cuirasse s'adapte et donc on va avoir des changements dans la structure des murs de pierre, puis au 19e siècle, à la fin du 19e, des murs de béton spécial, puis de béton armé. Hein, donc on a sans arrêt, effectivement, puis en plus des différences dans les hauteurs. Si vous avez une muraille très haute, c'est une cible facile pour ce type de projectile. Au fur et à mesure que l'on va effectivement perfectionner l'artillerie, on va progressivement abaisser tous ces murs, et puis on va finir par les enterrer. C'est Vauban, par exemple, pour faire simple, avec d'énormes talus, hein, ce qu'on appelle la fortification bastionnée, où on va faire en sorte que les projectiles lancés par artillerie à poudre vont s'enterrer. Hein, n'oublions pas que jusqu'au 19e siècle, en dehors des grenades ou de certaines bombes, ce que l'on envoie, ce sont des projectiles inertes. Hein. Donc exactement comme on envoyait avec les catapultes à l'époque médiévale ou époque romaine. C'est-à-dire que ça n'explose pas. Hein. À l'époque napoléonienne, l'artillerie, la fumée que l'on peut voir, c'est pas du côté de la réception des projectiles, mais c'est au départ du coup. Parce qu'en plus de ça, la poudre noire fait une énorme fumée, Donc on repère les batteries d'artillerie par la fumée qui se dégage des tirs de ces batteries. Hein. Mais les boulets vont faire des dégâts par leur poids et puis par effectivement la cadence de tir et la tension de ce tir. Et c'est seulement à partir du milieu du XIXe siècle, à partir du Second Empire, que l'on va inventer ce qu'on appelle l'obus, hein, c'est-à-dire un projectile explosif, cette fois. Et donc, ce projectile explosif va faire des dégâts à la fois quand il touche, mais aussi par son explosion, où il va être de plus en plus destructeur.
Alors, on voit d'un côté, les murailles se fortifient.
Bien
de
entendu.
L'autre côté, comme les murailles se fortifient, on fait évoluer aussi les armes pour les détruire ou les surpasser.
Bien entendu.
Finalement, on retombe sur les pieds de ce qu'on faisait au préalable. Donc là, on a encore une fois fait un bond à travers les siècles pour voir cette évolution de l'armement. De là à se demander jusqu'où ça ira, il n'y a qu'à voir aujourd'hui où est-ce qu'on en est, pour se laisser la place encore à de l'imaginaire, et on peut se laisser aller à penser que les amoureux de science-fiction ne voient peut-être pas si loin que ça quand on regarde
oui,
ce qu'on est capable d'imaginer.
Comme on dirait avec la célèbre émission, faut pas rêver. Je crois que non, mais on a toujours aujourd'hui le souci de la défense et de l'attaque, bien sûr. Le souci de la défense, ça passe pas aujourd'hui par des moyens éventuellement de murs de plus en plus épais, de plus en plus costauds, etc. Bon, et la défense, ça passe déjà par enterrer aujourd'hui un certain nombre de zones sensibles. Quand on parle, par exemple, comme je parlais tout à l'heure, de postes de commandement pour l'arme nucléaire, par exemple, ce qui est évidemment le secteur le plus sensible, puisque si ce poste de commandement est détruit, vous ne pouvez plus rien faire. Hein. Donc, les postes de commandement sont aujourd'hui totalement enterrés. Hein, on parle même sous l'Élysée d'un blocos sous l'Élysée, mais comme on le faisait encore depuis la guerre de 14, hein, à creuser dans le rocher pour enterrer, par exemple, des magasins à poudre ou autres, pour les mettre hors zone d'explosion des obus en surface. Mais vous avez, par exemple, les PC atomiques en France. On a eu pendant longtemps le poste de commandement atomique qui était à Taverny, dans le nord de Paris, par exemple, qui est une gigantesque ville complètement enterrée sous le béton, hein, mais sous les collines. Aujourd'hui, vous l'avez à Lyon, hein, quand vous arrivez au péage de Villefranche, hein, payé autoroute, et vous avez sur votre gauche une colline avec un radar au-dessus de l'armée de l'air, eh bien, sous cette colline-là, vous avez effectivement PC atomique, hein, qui est enterré, évidemment, sous des dizaines et dizaines de mètres de rochers, etc. Donc voilà un élément de protection. Puis le deuxième élément de protection, pour faire vite, aujourd'hui, c'est le camouflage. Hein, le camouflage. Le camouflage, c'est pas seulement l'uniforme du soldat, mais le camouflage, par exemple, vous passez à côté d'une base aérienne à Nancy-Hochet ou Luxeuil-Saint-Sauveur, par exemple, ici, pas loin de chez nous, tous les abris temporaires des avions sont pas en couleur rouge, hein, ou avec des petites étoiles dessus, hein, pour attirer l'œil. Bon, c'est une couleur un peu neutre qui se fond depuis la photo aérienne, qui se font un peu, on essaye de faire en sorte qu'elles se fondent dans le paysage. Et avec d'ailleurs toute une série de dispositions de ces hangars, qui ne sont pas tous alignés les uns à côté des autres, hein, en rondignon, mais qui sont au contraire orientés de différentes façons, de façon à ce que si jamais il y avait une attaque, il peut y en avoir un détruit, mais pas tous les autres. Hein. Donc voilà, c'est une manière aussi, le camouflage, c'est une façon aussi de pouvoir se protéger. C'est pas de la fortification au sens propre du terme, mais c'est malgré tout quelque chose qui ressemble à ce qu'on avait dans la fortification. Quand je parlais tout à l'heure de l'évolution avec le problème de l'obus à poudre, etc., quand on regarde, par exemple, la fortification de type Vauban, une fortification bastionnée, c'est une fortification qui s'enterre, c'est une fortification qui, quand vous arrivez... Alors évidemment, à l'époque, on n'a pas d'avion, hein, donc c'est une fortification qui, normalement, quand vous arrivez à cheval, en vue de cette fortification, vous ne la voyez pas, parce qu'elle est effectivement dans le nivellement du terrain. Il en va de même dans les fortifications serrées de rivière, par exemple celle autour d'Épinal, par exemple, quand vous arrivez de loin, quand vous êtes à hauteur d'homme, normalement vous ne la voyez pas parce que ça ressemble en fait à une colline. Hein, vous n'avez pas d'angle vif qui ressorte. Hein, et alors il faut se dire, quand vous regardez ça d'assez loin, hein, vous approchez pas, puisque si vous approchez, vous risquez d'avoir quelques ennuis avec la garnison. Mais de loin, effectivement. Alors la Révolution, ça sera effectivement à la fois le ballon d'observation, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle. Hein, bon, c'est pas les montgolfières. Hein, voilà. Mais déjà, malgré tout, hein, n'oubliez pas la belle image d'Épinal sur de Georgin sur la bataille de Fleurus, hein, bataille de la Révolution française. Hein, Fleurus, c'est une ville qui est aujourd'hui en Belgique, et où on a utilisé pour la première fois un ballon d'observation pour regarder le mouvement des troupes adverses. Hein. Donc ça remonte quand même à loin, ces moyens aériens. Mais ils sont vraiment développés à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle. Et puis évidemment, à la fin du XIXe siècle, ça sera le début de l'aviation d'observation, etc. Et on en est encore à l'aviation d'observation en 1914. Hein. On n'est pas encore aux chasseurs, etc. Mais c'est de l'observation.
Voilà en tout cas pour cet aspect de l'histoire, et je pense que dans notre prochaine émission nous nous arrêterons tout particulièrement sur ce 19e siècle qui a vu tant de changements dans les stratégies militaires, que ce soit pour l'attaque, pour la défense, pour l'observation. Jacques Grasser, je rappelle que vous êtes agrégé d'histoire et vous êtes notre invité pour cette série. Je vous dis à très bientôt pour poursuivre cette présentation.